Bonjour Monsieur le Ministre.
Bonjour, bonjour Anis.
Merci d'avoir accepté l'interview. C'est rare et cool en vrai que des personnes comme vous acceptent ce type de format. Parce que souvent on vous voit à la télé, souvent on voit débattre avec des journalistes. Moi je ne suis pas journaliste, je suis créateur de contenu et je suis ingénieur. Donc c'est entre ces deux casquettes que je vais naviguer pour essayer de vous poser le maximum de questions que la communauté se pose, je pense. Donc, première question déjà. Voilà, je repars sur ma fiche. Première question. Il y a François Bayrou, en 2025, qui a dit sur une interview... Est-ce qu'on peut la mettre à l'écran, les amis ? Voilà, qui a dit sur une interview, François Bayrou appelle à faire des efforts, il va falloir faire des économies. D'accord ? Puis, ensuite, on nous annonce hier 655 millions annoncés pour l'IA. Moi, j'ai une question, elle vient d'où l'argent ?
C'est une excellente question, parce qu'il y a deux manières de faire les économies. Il y a des économies qui, au fond, reviennent à couper dans l'avenir, couper dans l'investissement. Et ça, c'est pas celle qu'on veut faire. Et d'autres qui visent plutôt à rendre ce qu'on appelle les coûts de fonctionnement, le coût de l'organisation, plus efficace. Et donc, il faut pouvoir réduire les dépenses de l'État, de la sécurité sociale, et c'est pas facile, mais il faut le faire, parce qu'on a trop de déficits publics, on a trop de dettes, mais il faut continuer à investir, et notamment dans l'intelligence artificielle. Donc l'argent, il vient d'où ? Il y a un programme qui s'appelle France 2030, 54 milliards, qui a été lancé il y a 7 ans par le président Macron, qui vise à investir dans les technologies d'avenir. Donc on investit dans l'intelligence artificielle, on en investit dans le quantique, on investit dans la décarbonation, et donc ces 655 millions qui vont nous permettre de continuer à développer l'intelligence artificielle en France, ils viennent de là, c'est une enveloppe qu'on avait sanctuarisée. On a dit, ça, on touche pas.
Et vous pensez pas que c'est pas juste une enveloppe, ça ressemble plutôt à un petit timbre, vu qu'on voit les montants investis par les géants américains, c'est ridiculement bas par rapport à ce que des labs américains peuvent investir, ou même la Chine, ce qu'ils peuvent investir.
Bien sûr, et si on pense que l'intelligence artificielle à la française, ça va être une intelligence artificielle d'État, où c'est l'État qui va faire...
Donc on veut construire l'intelligence artificielle à la française, pas à l'européenne.
À l'européenne, j'allais y venir. Évidemment, on a commencé en France d'ailleurs, et plutôt bien, on a quelques champions, on y reviendra. Mais la manière d'être fort dans le monde aujourd'hui, dans le monde de demain, sur l'intelligence artificielle, c'est de le faire en européen. Mais on le fera pas juste avec de l'argent public. Il faut de l'argent public. Il faut notamment de l'investissement public dans les entreprises, mais aussi dans la recherche. Donc les 650 millions, il y en a une partie d'ailleurs qui va être sur des programmes d'attractivité de chercheurs internationaux. On avait lancé un programme qui s'appelait Choose France for Science. Il va être doté grâce à ça. Il faut investir dans l'infrastructure, les data centers, la circulation de l'information, l'électricité, puisqu'on sait évidemment que l'intelligence artificielle consomme beaucoup d'électricité. Donc, l'intelligence artificielle, c'est tout un écosystème. Et il faut investir à tous les niveaux. Mais si on n'a pas des entrepreneurs, des grands, des petits, des moyens, c'est-à-dire à la fois des grandes entreprises qui investissent, de EDF qui va investir dans les centrales nucléaires, à Orange, à Dassault Systèmes, toutes ces boîtes qui doivent investir, y compris pour soutenir l'écosystème, puis les petites, qui se créent aujourd'hui, qui seront les grandes de demain, on y arrivera.
Environ 80% du CIR est consommé à Paris. Donc, première question, est-ce que on ne dépense pas aussi de l'argent public sur des boîtes américaines ? Deuxième question, est-ce que en plus de faire une souveraineté française, on n'est pas en train de faire une souveraineté parisienne et oublier un peu le reste de la France aussi ?
Alors, première question, non. Clairement, pour bénéficier du crédit impôt recherche, qui conduit du coup à avoir un crédit d'impôt sur des activités de recherche. Vous embauchez des ingénieurs, des chercheurs dans votre entreprise, vous pouvez déduire une partie de ces dépenses de vos impôts. Donc, un, faut payer des impôts en France. Pour payer des impôts en France, faut être installé en France. Faut pas juste avoir une boîte aux lettres. Il faut avoir des activités en France. Et ces activités en France, elles bénéficient à l'ensemble de l'écosystème français. Par ailleurs, les grandes entreprises, souvent, mettent à leur crédit impôt recherche des dépenses qui sont faites avec des PME qui sont autour d'elles. Donc non, le crédit impôt recherche, ça fait partie des critères d'attractivité de la France, qui fait qu'on a des entreprises américaines, mais aussi du reste du monde, qui s'installent en France. En revanche, la question parisienne est importante. Alors souvent, les entreprises qui bénéficient du crédit impôt recherche ont leur siège social en Île-de-France, et du coup, c'est là que le crédit d'impôt est enregistré. Mais quand on regarde, par exemple, le dernier Choose France, donc on a annoncé, je pense, 91 milliards d'investissements, et notamment beaucoup d'ailleurs dans l'intelligence artificielle. Il y en avait plus de 60% de mémoire qui étaient en dehors d'Île-de-France. Il y en avait dans les Hauts-de-France, dans le Nord, il y en avait dans le Sud, il y en avait dans l'Ouest. Donc, il faut pas seulement d'ailleurs parce qu'on le veut, mais parce que les talents, ils sont partout en France, qu'on développe les entreprises.
Pourtant, la réalité aujourd'hui, moi, dès que je parle à des ingénieurs, dès que je parle à des développeurs, tout le monde est d'accord pour dire, si on veut du travail qui est bien payé, il faut être à Paris. Et souvent, les entreprises qui sont en périphérie, moi, je viens de Marseille, par exemple, ben, les salaires, ils sont assez bas quand on regarde. Et c'est pour ça que souvent, la France, elle peut se sentir aussi désenclavée. Et c'est une réalité. Hein. Je pense que dans le chat, y a pas mal de gens qui peuvent en témoigner. Quand on est ingénieur, quand on est développeur et qu'on veut trouver du travail, on se sent obligé de monter à Paris.
Non, mais il suffit de regarder une carte de France et une carte des voies de chemin de fer et des autoroutes pour voir que la France est encore trop centralisée. Donc, je vais pas vous dire que c'est pas encore un problème. Mais c'est en train de changer. D'abord, c'est en train de changer parce que le Covid est passé par là. Et que le Covid, il a permis à la fois de réaliser qu'on pouvait vivre en dehors de Paris et travailler à Paris.
Là, il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent en arrière. La Société Générale qui a annulé le télétravail.
Je suis d'accord.
Qui a annulé
mais il y a encore du télétravail. Et il y a encore, si vous habitez, enfin, si vous venez de Marseille, vous le savez, à Bordeaux, à Rennes, à Strasbourg, des gens qui font du 3-2, c'est-à-dire deux jours plutôt à Marseille, Bordeaux, Strasbourg avec leur famille.
J'en ai fait, ça fatigue.
Oui, ça fatigue, mais il y en a rien sans rien. C'est-à-dire que je pense qu'en termes de qualité de vie, notamment ceux qui ont des enfants, qui sont installés dans des villes où il fait peut-être un peu mieux vivre, ou en tout cas c'est un peu moins cher à vivre qu'à Paris. Moi, je suis parisien, donc je vais pas critiquer Paris. mais je pense qu'il y a un équilibre différent qui est en train de se trouver. Mais en tout cas, France 2030, j'en parlais tout à l'heure, c'est plus de la moitié, mais largement plus de la moitié, j'ai plus la statistique exacte, on essaiera de vous l'envoyer, vous pourrez la mettre sur votre prochaine émission, des investissements des 54 milliards qui ont été faits, qui sont en dehors de la région parisienne, parce qu'on avait exactement ce problème. On voulait que ça investisse partout en France.
Okay. Amodé, vous connaissez?
Oui, bien sûr.
Qui est?
Le CEO et fondateur d'Anthropic.
D'Anthropic, exactement. Dario Amodé qui alertait il n'y a pas si longtemps que ça sur le fait que de plus en plus l'intelligence artificielle va remplacer la moitié des emplois de juniors de bureaux menacés dans un horizon d'un à cinq ans. C'est une projection. On connaît aussi Dario qui aime bien faire des prises de position un peu grandes parfois. Et il y a aussi Elon Musk qui a expliqué qu'il était très favorable au revenu universel. Open Research, ils ont publié une étude sur le versement d'une somme d'argent sans condition. Là, on voit par exemple le tweet d'Elon Musk. Donc quand Elon Musk, qui est quand même une personne ultra, on va dire, capitalistique, etc., parle aussi de revenu universel, on est bientôt à l'élection présidentielle en France et personne n'en parle. On est où en France sur le revenu universel et la question du revenu universel ?
Moi, je ne suis pas pour... Je dirais de manière générale, il y a déjà beaucoup d'allocations en France qui sont versées. J'allais dire, c'est tant mieux, c'est le modèle social. Faudrait qu'on les simplifie, qu'on les rassemble. Donc, ce qu'on appelle l'allocation sociale unique qui permettra, je l'espère, et ça va faire partie du défi de la prochaine présidentielle, de rassembler toutes les allocations qu'on a aujourd'hui de manière à ce que vous sachiez ou on sache combien on touche chacun. C'est bien. Mais dire, on va générer de la richesse comme jamais dans le passé grâce à l'intelligence artificielle. Cette richesse, elle va bénéficier à quelques-uns, Elon Musk, Dario et quelques autres. Et on va juste redistribuer ça sous la forme de revenus universels à des gens qui n'auront plus de job. Pour moi, c'est reconnaître une défaite énorme.
Mais du coup, on dit on attend le ruissellement ?
Non. Le défi majeur, c'est d'abord comment on s'assure que l'intelligence artificielle bénéficie d'un point de vue des jobs à tout le monde. Les jobs vont changer. Je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, on se dit il n'y aura plus de job pour les codeurs. Parce que tout ça se fera de manière beaucoup plus efficace par l'intelligence artificielle.
Il y a des gens qui disent ça, d'autres qui disent...
Il y en a d'autres qui disent autre chose, qui disent que notamment, on n'a pas beaucoup parlé de la cybersécurité avec Mythos, qui risque de mettre en danger les modèles des banques. Il va falloir, comme on dit, patcher tous les modèles de cybersécurité des banques à chaque nouvelle release de Mythos. Ça va faire du job pour des informaticiens qui sont pas forcément tous des ingénieurs, mais aussi des techniciens. Donc, je pense que l'intelligence artificielle va changer la nature des jobs énormément. Et que notre rôle, puissance publique, c'est de s'assurer qu'on ait les formations qui permettent de passer de l'un à l'autre. L'énorme défi qu'on a, c'est que ça va se faire très vite. Ça s'est fait quand on est passé du cheval à la voiture, quand on est en train de passer, par exemple, de la voiture diesel à la voiture électrique, c'est pas les mêmes jobs. Construire une batterie électrique qui est l'essentiel de la majorité, c'est pas construire un moteur diesel.
Ça, c'est sur la redistribution des jobs, mais sur la redistribution de la valeur. Parce que quand on regarde les chiffres, on a 500 des plus grandes fortunes professionnelles en 2005 qui avaient 170 milliards d'euros. En 2025, ils ont 1128 milliards d'euros. Ça représente 6 fois plus, donc 6 fois l'enrichissement en 20 ans des plus riches en France. Et en parallèle, on a 13% de la population qui était en situation de privation matérielle et sociale en 2025. Donc concrètement, quand on sait que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, il y a des entreprises qui disent « moi, je recrute moins parce que je compte sur l'intelligence artificielle et j'ai travaillé dans certaines de ces entreprises. Concrètement, aujourd'hui, il y a des gens qui, on n'arrive plus à trouver du travail aussi facilement qu'avant. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ces gens?
Oui, alors, on travaille plus en France qu'on n'a jamais travaillé quand même, parce qu'on a fait un certain nombre de réformes sur le marché du travail, le marché du chômage.
Mais on gagne aussi jamais moins qu'en ce qu'on n'a jamais gagné.
Mais on gagne peut-être moins qu'on aimerait, mais on gagne quand même plus en France qu'on n'a jamais gagné.
Et après, le confort de vie a égalité.
Exactement, je suis d'accord avec
vous. Il a diminué beaucoup.
Il faut pas croire qu'on vit au paradis, loin de là. Et donc, les enjeux de redistribution, parce que c'est la question que vous me posez, est-ce que la richesse est suffisamment distribuée en France? Il s'avère que j'ai été auditionné à l'Assemblée nationale hier. On m'a posé la même question. Moi, j'ai dit un truc très simple, c'est on taxe beaucoup en France, donc faut pas taxer plus. Mais peut-être qu'on peut taxer mieux. C'est-à-dire que la redistribution, notamment sur les personnes les plus fortunées, peut peut-être être améliorée de manière à ce qu'on ait une redistribution plus importante. Attention, je suis convaincu que ce sujet, d'ailleurs, Elon Musk l'a dit, est un sujet mondial. Il faut qu'on l'adresse au niveau mondial. Parce que si on dit à Elon Musk, en France, tu vas être taxé 10 fois plus qu'aux États-Unis, il restera aux États-Unis. Et le Elon Musk français, il ira s'y installer. Donc, il faut traiter ce sujet d'un point de vue global. Il faut que ça se pose, vous avez raison, dans le cadre des élections présidentielles, cette question va se poser. Il faut faire juste attention à une chose. Mistral AI. Ça vaut aujourd'hui, à la dernière valorisation, j'espère que ça va continuer à progresser, un peu plus de 10 milliards d'euros. Mmh.
Ça ce n'a qui pas... est ridicule par rapport aux autres.
Ce qui n'est pas grand-chose, mais c'est quand même 10 milliards d'euros. Et donc, si on dit, on va taxer le patrimoine d'Arthur Mensch, qui détient un pourcentage important de Mistral AI. Aujourd'hui, Mistral AI, il n'y a pas de revenus. Donc, si vous dites à Arthur Mensch, tu vas payer 2% de ton capital chez Mistral AI, la taxe Zuckman, ben ça veut dire qu'il va devoir vendre des actions de Mistral AI pour les payer.
Ça, c'est si on incorpore des nouvelles taxes. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui en France, dont je fais partie, on cherche plus à diminuer le nombre de taxes qu'on paye aujourd'hui. Parce qu'il est là le problème. Le problème,
c'est que quand on regarde, c'est exactement
quand on regarde pour traverser la frontière, etc., on se dit, elle va où l'argent? Et quand on regarde les dépenses publiques, 25% de la dépense publique, c'est aussi les retraites. Donc, est-ce qu'on n'est pas en train d'opposer aussi entre le passé et le futur? C'est-à-dire payer les retraites ou payer l'innovation, est-ce qu'on n'est pas en train d'opposer superbe aussi question. Plusieurs générations?
Superbe question. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, moi et vous, on paye pour la retraite de nos parents et de nos grands-parents.
Totalement.
Et du coup, on ne met pas d'argent de côté pour notre retraite.
Totalement.
Moi, je crois au système de retraite par capitalisation publique qui fait qu'on doit pouvoir faire en sorte que, peut-être pas moi, je suis pas très loin de la retraite, mais vous, en tout cas, vous puissiez accumuler dans un fonds de pension public qui vous permettra de compléter votre retraite. Ce fonds de pension, il sera investi où? Dans des entreprises innovantes, françaises et européennes. Donc en plus, on aura le double bénéfice de pouvoir investir dans les entreprises qui vont produire la richesse de demain. Donc il faut qu'on change notre système de retraite. Ça ne veut pas dire qu'il faut le balayer. La solidarité, c'est important. Mais il faut le compléter de manière à ce qu'il soit plus solvable et qu'il repose moins sur ceux qui travaillent et un peu plus sur ceux qui ne travaillent pas ou plus. Donc, est-ce que les retraités peuvent contribuer un peu plus? Sans doute aussi à l'effort national.
Et déjà, est-ce que vous utilisez l'IA?
Oui, alors après, comme un amateur, je suis pas vous un professionnel et entrepreneur. Devine.
Je sais pas, tu as
le chat. Le chat.
Le chat de Mistral.
Mais je pense que mon équipe l'utilise plus que moi parce que parfois, il m'arrive d'avoir des documents où je me dis, tiens, celui-là, je suis pas
sûr. Et ça vous pose un problème sur les problèmes d'hallucination que le chat peut avoir?
Non.
Il y a aussi une étude récente qui est sortie qui a montré que Mistral AI était plus que les autres souvent assujetti aussi à de la désinformation russe. Récemment, il y a une étude qui est sortie qui a été
relayée
dans
énorme,
le Financial Times. Est-ce que ça pose pas un problème que
Ça pose un problème pour tous les LLM. Alors moi, j'utilise pas Mistral AI. Il faut te donner des statistiques que par ailleurs mon équipe a été chercher dans les vrais data. Mais oui, ça pose un problème. Et on est à un an d'une élection majeure en France, la qualité de l'information à laquelle on a accès, qui peut parfois être extrêmement biaisée du fait de l'histoire, parce qu'au fond, Mistral AI et les autres vont chercher de l'information qui existe, sont capables de la computer et de vous la recracher. Le problème, c'est que l'information qui existe, elle n'est pas toujours parfaite, elle a des biais, et que du coup, elle vous reproduit ses biais et ses imperfections. Donc c'est un des défis majeurs sur les élections, sur la consommation, sur le rapport à l'information. Et ça, il faut qu'on le traite. Et c'est pas facile, mais il faut qu'on le traite, j'allais dire, aussi en utilisant les technologies modernes. Est-ce que, in fine, l'intelligence artificielle nous permettra de corriger l'intelligence artificielle à partir du moment que nous, on met la main sur une partie des modèles, peut-être, oui.
Alors, avec mon équipe, on a regardé un peu depuis 15 ans, les personnes du gouvernement, les formations, d'où ils viennent, il y a en grande partie de HEC, ESSEC, Sciences Po, à l'heure où l'intelligence artificielle est si importante, ils sont où les ingénieurs dans vos équipes? Ils sont où les gens techniques?
Parce il y en a un devant vous, parce que moi j'ai eu la chance d'être diplômé de l'école polytechnique il y a longtemps, on faisait pas d'intelligence artificielle. Moi dans mon équipe j'ai des ingénieurs, et je pense que c'est très important que, à la fois dans les cabinets ministériels, mais dans l'administration, on ait des ingénieurs. Et vous avez raison, historiquement, la France était et reste une nation d'ingénieurs. Et les grands corps de l'État étaient beaucoup des grands corps d'ingénieurs. Donc les ingénieurs sont toujours très présents. On a plus d'ingénieurs. Il en faudra beaucoup plus. Et notamment des ingénieurs, eux. On manque de femmes dans les métiers d'ingénieurs. Mesdames, mesdemoiselles, allez-y, on a besoin de vous. Mais qu'on ait au sein de l'État plus d'ingénieurs, je trouve que c'est une excellente idée. Et c'est une des raisons pour laquelle on a réformé l'ENA, dans laquelle on a réformé aussi les procédures d'entrée dans l'administration, de manière à ce qu'on ait plus d'ingénieurs. Et qu'il y ait plus de ministres ingénieurs, moi, ça me va aussi.
Ok. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire les prochains postes de ministre de l'IA, on aura des gens qui ont travaillé dans l'IA ou...
Alors, il y en a eu, hein, Cédrico, Mounir Majoubi, alors il n'y a pas très...
Alors, c'est pas des... C'est... Y a aucun des profils techniques.
Non, mais quand même, ils avaient travaillé. Mounir Majoubi avait une start-up avant de...
Oui, mais c'est pas en disant je suis CEO d'une start-up dans l'IA, je deviens expert en IA.
Attention, parce que dire que le ministre de la Santé doit être un médecin, le ministre de l'IA doit être un ingénieur et le ministre de l'économie doit être un économiste, je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça fonctionne. Il faut des gens qui aient du leadership, il faut des gens qui comprennent ce qui se passe dans leur écosystème, il faut des gens qui sachent s'entourer de gens qui comprennent ce qui se passe vraiment. Mais moi je suis pas derrière chaque entrepreneur en train de lui dire ce qu'il doit faire pour créer de la richesse. Je suis là pour créer un environnement qui permet de le faire. Donc faut que je sois bien entouré, et notamment sur l'IA, c'est essentiel qu'on ait des gens qui comprennent ce qui se passe. Mais vous savez, j'avais un patron, je vais le dire en anglais, mais qui me disait: when you want to know about water, don't ask the fish. Quand tu veux savoir ce qui se passe dans le bocal, faut pas toujours demander juste au poisson qui nage. C'est-à-dire parfois avoir un peu de recul sur ce qui se passe et être capable de dire.
Oui, mais là le risque c'est qu'on a pris tellement de recul depuis 20 ans qu'on voit plus rien. Et
non, mais je suis d'accord,
parfois,
c'est pour ça que
sont... quand on voit Edouard Philippe qui dit je fais un peu de ChatGPT.
Oui, mais je peux vous dire, d'après ce que j'ai compris, il est à Vivatech aujourd'hui. Okay, je pense qu'il a changé là-dessus, donc allez le voir, demandez-lui s'il a changé. Mais oui, évidemment, faut qu'on soit conscient des enjeux, et j'espère vraiment, il y a des candidats qui commencent à en parler, que dans la campagne présidentielle qui s'ouvre, on va beaucoup parler d'IA, parce que c'est à la fois une opportunité énorme pour faire évoluer notre modèle, y compris l'efficacité des dépenses publiques, etc., et un risque énorme aussi pour notre démocratie. Donc c'est un sujet politique par essence.
Choose France, le japonais SoftBank, qui annonce un investissement record de 75 milliards d'euros dédiés à l'IA, sur les 75 milliards d'euros dédiés à l'IA. Est-ce que vous avez plus d'infos sur ces chiffres, c'est-à-dire quelle part de la propriété intellectuelle, des profits imposables et des centres de décision restera en France? Parce que, de manière très concrète, quand on investit aujourd'hui sur l'IA en France, j'ai l'impression, quand on dit qu'on va investir sur des data centers, en vérité, on achète des puces américaines.
Alors,
donc, est-ce que ces 75 milliards, il va y avoir la moitié qui vont partir dans des locations de fonciers autour de Paris, parce que je sais que les loyers sont élevés, ou qu'est-ce qui va se passer?
Donc déjà, c'est 45 milliards, puis peut-être 30. Donc il y a 45 milliards de fermes. Bon, c'est beaucoup d'argent. Essentiellement dans des data centers, mais aussi dans des usines qui vont fabriquer des composantes qui vont être utiles pour les data centers et qui vont fabriquer en JV, en joint venture, avec Schneider, qui est une grande boîte française. Donc déjà, il y a une collaboration avec une boîte française pour faire des usines en France. Et elles seront pas à Paris, elles seront dans les Hauts-de-France, dans le Nord, vers Dunkerque.
Et les loyers sont moins chers.
Non, mais les loyers sont moins chers, mais surtout, c'est des territoires où on aime l'industrie. Dunkerque, ça a été un territoire de désindustrialisation pendant des années. On est en train de faire revivre le Dunkerquois avec des batteries, avec des usines qui font notamment des cathodes pour les batteries de demain, et avec des data centers, entre autres, de l'aluminium, de l'acierie. Donc, il y a des bassins industriels en France qu'il faut... Alors, la valeur. Donc, d'abord, ce sera essentiellement des data centers. Tu parlais de souveraineté, vous parliez de souveraineté. Pour être souverain en France, il n'est pas idiot de se dire que les data centers vont être en France. Ça suffit pas.
Avec des puces américaines.
Pour l'instant, avec des puces américaines, on a aujourd'hui Bull, qui est une ex-filiale d'Atos, qu'on a renationalisée, qui développe des puces de énième génération qui vont pouvoir entrer dans les data centers. À suivre. On a la recherche. On a plus de...
Oui, mais monsieur le ministre, on se dit pas que c'est trop tard?
Non, c'est pas trop tard.
On est en 2026 et on est en train de se rendre compte qu'il nous faut des puces.
Non, mais... On a d'abord des fabricants de puces, hein, ST Microélectronique, boîte française, franco-italienne, qui fabrique déjà des puces et qui a fait évoluer son modèle d'affaires des automobiles vers l'IA et la défense. Donc aujourd'hui, on a des boîtes françaises qui font des puces. Les puces qui sont au cœur des modèles d'IA aujourd'hui sont essentiellement américaines. On connaît la boîte, il n'y a pas besoin de la citer. Mais c'est en train d'évoluer. Non, c'est pas trop tard. Moi, il y a un message que peut-être je veux laisser à ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est que il faut être optimiste. Faut pas être naïf. Faut être optimiste et faut être déterminé. Parce que si on est pessimiste et défaitiste, là, on va perdre. On a des ingénieurs d'extrême qualité. On a des boîtes Mistral AI, mais d'autres extrêmement fortes. On a des infrastructures qui sont en train d'être développées. On a de l'électricité décarbonée pas chère. Et ça, il y a personne d'autre qui l'a pour l'instant au monde. Donc, on a les moyens de développer, à condition, je le répète, de le faire en européen.
Mais quand je dis c'est trop tard, parce que on a quand même eu, dans les années 2010 notamment, une grande vague d'anti-nucléaire, de dénucléarisation de la France aussi. Et là, maintenant, on se rend compte que ah, le nucléaire, c'est utile parce que ça fait de l'électricité décarbonée. Électricité, c'est quoi? On peut convertir, comme le disait très bien Arthur, l'électricité en token. Et bien là, on sûr. Se rend compte que bah, l'électricité, c'est pas mal. Et maintenant, il faut repartir en arrière.
Oui, mais nous, on n'en
fait pas un accordéon constant
non,
aussi.
Non, il y a eu un peu d'aller-retour sur le nucléaire. Faut pas oublier que c'était lié à l'accident de Fukushima qui a un peu terrorisé tout le monde et on peut le comprendre. Donc, il a fallu rassurer nos concitoyens sur le fait que le nucléaire était une bonne chose. Et là, il y a une éolienne là sur l'étagère. Il n'y a pas que le nucléaire. Il y a le nucléaire et il y a aussi le renouvelable pour faire les deux. Donc, on lance aussi des appels d'offres pour planter des éoliennes, notamment au large de nos côtes. Mais l'année dernière, on a exporté 90 térawattheures d'énergie, d'électricité. C'est beaucoup, beaucoup. Donc on est capable, si on continue à développer l'offre d'électricité, on va construire de nouveaux réacteurs et on va implanter de nouvelles éoliennes, d'avoir de l'électricité en volume décarboné, pas cher, disponible, notamment pour l'IA. Parce que c'est à la fois un enjeu de prospérité, ça va créer des jobs, mais c'est aussi un enjeu d'indépendance et de souveraineté pour les raisons que vous mentionniez. Si on a des puces étrangères, des LLM étrangers, des ingénieurs étrangers, vous savez quoi? Il va nous arriver ce qui nous est arrivé il y a 3 jours. Si un président, quel qu'il soit, décide de brancher nos modèles, on pourra peut-être même plus faire les missions qu'on fait.
Oui, mais du coup, il y a beaucoup de politiques aussi qui se sont rendus compte que c'était...
Wake up call.
C'était possible. Mais wake up call en 2026, ça m'a l'air un peu...
Là, je vous trouve un peu injuste. En France, il y a un an et demi, on a mené, grâce au président de la République, un sommet international de IA, qui était le premier sommet international où on a à la fois parlé d'IA éthique et d'investissement, avec plus de 100 milliards d'investissements prévus en France. L'IA, elle a débarqué dans nos vies il y a 4 ans. Ça fait 2 ans que la France est à fond là-dessus. Alors, on n'est pas encore les premiers, mais je peux vous dire que quand je parle avec mes collègues américains, ils me disent « You guys are good, you're not far behind us ». Donc, faut être un peu optimiste, un peu déterminé. Et pas des
Alors, de manière très concrète, moi, à côté de ma création de contenu, j'ai des boîtes en IA.
Ouais.
Aujourd'hui, on parle avec des acteurs du CAC 40 et on fait des. Ils sont en phase de RFI, de prospection, etc., etc. Et on est là en dernière ronde, mis en challenge avec 2 boîtes américaines. D'accord. Les boîtes américaines, les entreprises du CAC 40 avec lesquelles je parle me disent oui, mais à Nice, les boîtes américaines, ils ont levé 40 millions d'euros, ça nous rassure un peu plus, etc. Et ils sont moins chers. Je leur dis, bah évidemment qu'ils sont moins chers, ils payent beaucoup moins de taxes que nous, ils ont beaucoup plus d'argent à investir que nous, etc., etc. Comment je fais pour gagner ma propale, moi, et leur dire de choisir une boîte française?
Bon, d'abord, faut que tu puisses toi aussi lever 40 millions d'euros. C'est-à-dire, faut qu'on accroisse le financement européen des entreprises européennes. Et ça, je vais avoir des annonces à faire vendredi, à la fin de Vivatech, on va faire des annonces parce qu'on souhaite accroître le financement, et pas seulement en français, mais aussi en franco-allemand, en européen, des entreprises. Il n'y a pas de raison. Il y a 13 000 milliards d'épargne d'euros en France et en Europe. Elle part aux États-Unis tous les ans. Ça, faut que ça arrête. Ensuite, il faut que les acteurs français, notamment les acheteurs, aient conscience du fait qu'acheter français et européen, c'est pas juste bien pour la patrie. À la limite, quand même, c'est pas mal de le penser comme ça. C'est que ça peut être utile pour eux. Parce que le jour où le président américain décide de débrancher la start-up qui leur fait des services, ils sont plus servés. Donc, il faut qu'on ait ce wake-up call sur aussi ce que c'est que la souveraineté. L'État le fait, vous le savez, tu le sais. On a mis en place, le Premier ministre a annoncé hier, le passage de Palantir vers ChapVision dans les quelques mois qui viennent pour la DGSI. Le fait que notre service de contre-espionnage soit servi par une entreprise française européenne, c'est quand même la moitié des choses. Donc là aussi, du côté des acheteurs, on est en train de changer d'état d'esprit.
Et une question subsidiaire, est-ce que vous savez ce que ça veut dire LLM?
Oui, bah c'est le modèle de langage qui permet de... C'est le moteur en fait de l'intelligence artificielle.
Et ça veut dire quoi? LLM.
Oh, language, non, je sais pas, language model, mais.
Large language model. Donc, on nous annonce que la DGSI va rompre son contrat avec Palantir et dans la minute, dans la journée, Palantir publie un communiqué où ils expliquent qu'à la suite des annonces faites ce matin par le Premier ministre, Palantir tient à confirmer que le contrat de long terme qui le lie à l'entreprise de la DGSI, en gros, vu. Ok.
Voilà, bah, ce qu'a annoncé le Premier ministre, c'est qu'on est dans une phase de transition qui va peut-être durer quelques mois, mais qui amènera le cœur de la DGSI d'être motorisé, si je puis dire, par un engin français.
Donc ça, parce que moi, pour travailler dans les entreprises, quand on débranche un partenaire, on le fait du jour au lendemain pour éviter tout un tas de choses qui sont notamment le fait qu'il y a des fuites de données, le fait qu'on puisse se servir dans les data, etc., etc. C'est ce qu'on fait. Hein, tout, enfin, je pense que vous savez, dans les boîtes, dès qu'on veut débrancher quelque chose, on le fait directement pour éviter ça. Là, ça veut dire que pendant 1 à 3 ans, on a un des plus gros acteurs américains dans la DGSI qui sait qu'il va être débranché et qui a 1 ou 3 ans pour voir ce qu'il veut.
Attention. C'est un contrat avec un État souverain. Tu fais un peu attention quand tu es fournisseur d'un État souverain à pas faire n'importe quoi. Et deux, je veux quand même dire un truc. On n'est pas en guerre avec les États-Unis d'Amérique. On a
défis. Pour le coup, eux, j'ai l'impression qu'ils sont en guerre.
Non. Ça fait 250 ans qu'on est amis. On a des défis énormes. Et c'est pour ça, on l'a vu depuis 3 jours sur le Mythos, qu'on doit assurer notre souveraineté et le faire de manière affirmée. Mais on n'est pas en train de refermer le monde. Il faut qu'on reste dans un monde ouvert. Il faut qu'on reste dans un monde collaboratif. Donc, il faut qu'on arrive à bien identifier ce sur quoi on doit être parfaitement souverain, parfaitement indépendant. Puis d'autres sur lesquels on va continuer à collaborer. Parce que le monde dans lequel j'ai grandi, c'est un monde de guerre froide. Pas le tien. Toi, t'as grandi dans un monde plutôt de paix. Et aujourd'hui, on est en train d'arriver dans un monde qui se retend à nouveau. Les entreprises, les technologies, la communication, la politique, c'est aussi un moyen de s'assurer quand même qu'on pacifie le monde. Donc, on n'est plus dans un monde plat. Il faut qu'on soit extrêmement ferme sur ce qu'on protège. Mais il faut qu'on reste quand même engagé avec les uns les autres.
Il y a plein d'ingénieurs et de développeurs qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous leur dites pour... est-ce que vous pouvez pitcher le projet français et justement leur dire de rester? Parce que le nombre de gens, et j'en fais partie, qui veulent partir ou retourner aux États-Unis ou ailleurs, il y en a beaucoup.
Ici, vous serez libre. Vous serez financé. Pas assez, mais il faut que vous le soyez davantage. Mais attention. Moi, je connais des chercheurs aux États-Unis, j'y suis élu, qui aujourd'hui envisagent de rentrer parce qu'ils n'ont plus le droit de chercher sur des domaines dans lesquels ils souhaitent chercher, la neurobiologie, le changement climatique, etc., etc. À nous de vous donner l'envie de rester, mais faites attention, l'herbe est pas toujours plus verte de l'autre côté de l'océan.
Du coup, libre, mais moins payé.
Attention. Non, mais oui, et puis mieux soigné. Tu connais l'espérance de vie en France par rapport aux États-Unis? Pourquoi? Oui. Parce qu'on a une sécurité sociale qui n'existe pas là-bas. On a une retraite. Elle n'est pas idéale, il faut qu'on la change. Il n'y en a pas là-bas. Il faut cotiser à un fonds de pension. Attention, les loyers à New York, tu parlais des loyers à Paris tout à l'heure, c'est 2 à 3 fois plus. Donc voilà, il faut tout comparer. Il faut qu'on soit mieux payé en France et en Europe. Il faut que les entrepreneurs gagnent leur vie, y compris d'ailleurs grâce à une entreprise qui va se valoriser davantage. Attention, l'herbe, elle est parfois un peu moins verte qu'on le pense. Merci.